Imaginez un filtre à café, mais un filtre microscopique et surtout incroyablement intelligent.
Oui, un filtre qui serait capable de faire le tri entre les molécules une par une, de dire « toi tu passes et toi tu restes ».
Exactement. C'est un défi, mais un défi colossal, que ce soit pour purifier du gaz naturel ou, bien sûr, pour essayer de capturer le CO2 de l'atmosphère.
Et la solution à ce défi, elle se trouve peut-être dans des matériaux qu'on conçoit sur mesure, des structures cristallines qu'on appelle les Metal Organic Frameworks ou MOFS.
Il faut vraiment les voir comme des Lego à l'échelle moléculaire, c'est ça?
C'est la meilleure image. Ce sont des sortes d'éponges dont on peut programmer l'architecture, les propriétés chimiques, pour qu'elles fassent une tâche très très précise.
Justement, aujourd'hui, on va plonger dans une publication scientifique qui présente la conception d'une toute nouvelle famille de ces matériaux. On va se pencher sur les travaux de l'équipe du professeur Adam Duong au laboratoire LG2A de l'Université de Picardie-Jules Verne. Et leur mission, elle était claire, créer une structure qui soit un piège parfait pour le dioxyde de carbone tout en ignorant complètement le méthane. Ce qui est fascinant, et on va le voir, c'est que ce n'est pas une découverte faite par hasard.
Non, pas du tout. On va décortiquer une véritable stratégie d'architecte moléculaire. Chaque brique, chaque choix a été pensé. C'est ce qu'on appelle la conception rationnelle.
Alors, commençons par la base. Ces MOF, ces fameux Lego, sont faits de nœuds qui sont des ions métalliques et de barres de liaison, des molécules organiques qu'on appelle des ligands.
C'est ça. Et en changeant les pièces, on change la taille des pores, leur forme, leur chimie.
Mais le but n'est pas juste de faire des trous, j'imagine.
Non, bien sûr. Le vrai enjeu, c'est de donner une fonction à ces trous, une sorte d'intelligence chimique. Et c'est là que leur conception rationnelle commence. D'abord, par le choix des nœuds, les métaux.
Oui, et là, c'est un choix assez surprenant. Pas de zinc, pas de cuivre, qui sont très courants. Ils ont pris des terres rares, des lanthanides, le lanthane, le cérium. Pourquoi ce choix acide ?
C'est une excellente question. Les lanthanides, en fait, ils ont une particularité, ils peuvent se lier à plus de barres de liaison que les métaux classiques. On parle d'un nombre de coordinations plus élevé.
D'accord, et concrètement, ça apporte quoi?
Ça permet de plonger des architectures en trois dimensions qui sont beaucoup, beaucoup plus robustes. Et la robustesse, c'est le nerf de la guerre. Un matériau qui s'effondre en conditions réelles...
Ça ne sert à rien, peu importe ses performances, logique.
C'est un choix qui anticipe déjà les contraintes industrielles.
D'accord, donc on a une fondation plus solide... Maintenant, venons-en aux barres de liaison, le ligand organique. C'est là que se trouve la vraie nouveauté, si j'ai bien compris.
Oui, ils ont utilisé une molécule qui s'appelle le siamélurate. Si pour faire court. Et c'est la toute première fois qu'on l'utilise pour faire un matériau pour eux.
Et alors, qu'est-ce qu'elle a de si spécial, cette molécule?
Eh bien, elle a deux atouts majeurs. Le premier, c'est sa composition. Elle est très riche en atomes d'azote et d'oxygène.
Ce qui veut dire que les parois des pores sont tapissées de ces atomes.
Exactement. Et ces atomes créent ce qu'on appelle des sites basiques de Lewis. Ce sont comme des petits points d'ancrage, des aimants chimiques pour le CO2, qui est une molécule légèrement acide.
Une affinité chimique intégrée directement dans les murs, en quelque sorte. Une attraction naturelle. Et le deuxième atout?
C'est sa taille. Elle est très compacte. Et sa compacité force la formation de pores très très étroits, des micropores d'environ 4,19 angstroms.
C'est minuscule, c'est à peine plus grand que les molécules de gaz elles-mêmes.
Justement, on crée un environnement très confiné.
Donc si je résume, on a une double peine pour le CO2. D'un côté, une attraction chimique qu'il tire vers les parois.
Et de l'autre, des pores si étroits qu'une fois dedans, il est piégé physiquement. Un vrai piège sur mesure.
Le résultat de cette recette, c'est donc cette nouvelle famille de matériaux, les IRH 1, 2 et 3.
C'est ça. Et quand ils les ont analysés, ils ont découvert une structure magnifique. Un réseau 3D parfaitement ordonné, avec des canaux tubulaires bien carrés. Ce n'est pas une éponge en désordre, c'est une architecture de précision.
Et c'est là, en regardant cette structure de près, qu'ils trouvent un détail qui, à première vue, pourrait sembler être un problème.
Oui, un détail crucial, et même contre-intuitif. D'habitude, dans ce domaine, l'étape la plus importante, c'est l'activation. On chauffe sous vide pour chasser tous les solvants et surtout l'eau.
Pour libérer les pores, pour faire de la place pour le gaz.
Voilà. On veut un maximum d'espace vide.
Attendez. Dans tous les autres travaux que j'ai pu lire, si on laisse de l'eau, les performances s'effondrent. C'est l'ennemi public numéro un. Ils n'ont pas juste raté leur manipulation.
C'est ce qu'on pourrait penser. Et c'est ce qui rend cette découverte si élégante. Ils ont vu qu'il restait des molécules d'eau, mais pas n'importe où. Des molécules coordonnées, liées directement aux métaux et qui pointent vers l'intérieur des canaux.
Et alors ?
Et alors, ils ont réalisé que ce qu'on a toujours vu comme un défaut, c'était en fait la clé de leur sélectivité. Ce n'était pas un bug, c'était une fonctionnalité.
Alors là, c'est fascinant. L'élément qu'on essaie toujours d'éliminer devient l'ingrédient secret. Mais comment ça marche ? Comment cette eau peut-elle aider ? Il a fallu tester.
Exactement. Le passage au banc d'essai. Ils ont mesuré l'adsorption de gaz et les résultats sont zéniths, sans appel. Pour le meilleur des trois, l'IRH3, à 25 degrés et 1 bar.
Condition standard.
Il capture une quantité très importante de CO2, jusqu'à 2,8 mol par kilogramme. C'est une très très bonne performance.
D'accord, très bon CO2. Et pour le méthane, le gaz qu'on veut ignorer.
Alors là, le verdict est spectaculaire. Dans les mêmes conditions, la capture de méthane est quasi nulle. On tombe à 0,07 mol par kilogramme.
Ah oui, l'écart est abyssal.
Complètement. Le matériau adore le CO2 et il ignore presque totalement le méthane. La stratégie a payé.
Incroyable. Mais alors, il faut comprendre le mécanisme. On se doute que l'eau y est pour quelque chose. Comment expliquer une telle différence ?
Il y a deux raisons qui se combinent. La première, on l'a un peu évoquée, l'affinité chimique. Les parois riches en azote attirent le CO2. Mais il y a un autre facteur. Le CO2 a ce qu'on appelle un moment quadripolaire. Voilà un terme qui peut faire un peu peur. Qu'est-ce que ça veut dire, simplement ? En gros, il faut imaginer que la molécule de CO2 a une répartition de charge qui n'est pas uniforme. Ça lui donne des sortes de poignées électriques pour s'agripper.
D'accord.
Le méthane, lui, est beaucoup plus symétrique. C'est presque une boule de billard lisse, sans prise. Du coup, le CO2 s'accroche solidement aux parois, alors que le méthane, lui, glisse dessus.
L'image de la poignée est très claire. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième, c'est notre fameuse invitée surprise, l'eau.
C'est là que tout bascule. Le méthane est une molécule hydrophobe.
Elle n'aime pas l'eau.
C'est ça, elle la fuit. Et les parois du matériau, et surtout ces molécules d'eau qui pointent dans les canaux, sont hydrophiles. Elles aiment l'eau. Le résultat, c'est une véritable répulsion.
Ah !
L'eau agit comme un videur à l'entrée d'une boîte de nuit qui refuserait spécifiquement l'entrée au méthane.
Le videur le repousse activement parce qu'il n'a pas le bon profil chimique. C'est donc ça la fonctionnalité cachée. L'eau n'est pas un défaut, c'est un agent de tri actif.
Précisément. Elle n'abaisse pas la performance, au contraire, elle l'augmente de façon spectaculaire en créant cette barrière pour le méthane. C'est une découverte brillante.
Donc le matériau préfère clairement le CO2, mais à quel point ? On peut mettre un chiffre là-dessus ?
Oui, et c'est le chiffre clé, la sélectivité. C'est le ratio qui mesure cette préférence. Pour l'IRH3, à basse pression, cette sélectivité est estimée à 27.
27. Dit comme ça, c'est un bon score par rapport à ce qui existe.
C'est un excellent score. Pour comparer, l'article le met en perspective avec des matériaux de référence. Le fameux HKUST1, une star des MOF, il est à 7 dans les mêmes conditions.
Seulement 7.
Le MOF5, un autre classique, est à 2. Une zéolite commerciale, la 5A, est à 6. Donc, avec 27, on ne joue plus dans la même cour. C'est une performance de tout premier plan.
C'est un bond en avant significatif. Les résultats sont là, la théorie tient la route. Mais pour être absolument sûr de leur interprétation, ils ont voulu le voir autrement.
Oui, ils ont fait appel aux simulations informatiques. Une méthode qu'on appelle Monte-Carlo Grande Canonique. C'est un peu comme recréer l'expérience dans un ordinateur pour observer ce qui se passe molécule par molécule.
Pour voir où les molécules aiment se loger. Et qu'est-ce que ça a montré ?
Pour le CO2, les cartes sont très claires. On voit les molécules s'aligner le long des parois, en interaction forte avec l'azote. Exactement là où on les attendait. Elles se blottissent là où c'est confortable pour elles. Voilà, pour le méthane, c'est le jour et la nuit. La distribution est diffuse, presque aléatoire. Il n'y a aucun site d'adsorption préférentiel. La molécule flotte sans s'accrocher.
Et le rôle du videur, on le voit aussi dans la simulation.
C'est la plus belle des confirmations. La simulation montre visuellement que la concentration de méthane est quasi nulle près des centres métalliques. Et pourquoi ?
Parce que c'est là que se trouve l'eau qui le repousse.
Exactement. C'est la preuve visuelle qui vient boucler la boucle et valider toute l'interprétation.
Alors, si on doit synthétiser les points clés de cette analyse, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Pour moi, le premier point, c'est vraiment la puissance de cette approche de conception rationnelle.
Oui, le fait de choisir intelligemment ces briques de départ, les lanthanides, pour la robustesse, ce ligand cyamélurate, pour la chimie, ça mène à un résultat exceptionnel. Le deuxième point, c'est le succès de la stratégie à double détente. Des pores très étroits pour le confinement et une chimie de surface spécifique pour l'attraction. Tout à fait. C'est ce qui permet de cibler le CO2 avec une telle précision.
Et enfin, le point le plus marquant pour moi, c'est cette découverte sur le rôle de l'eau. Transformer ce qu'on a toujours vu comme un contaminant en un avantage fonctionnel. C'est un vrai changement de perspective.
Absolument. Et si on prend un peu de recul, la portée de ces travaux dépasse ces trois matériaux. C'est une magnifique démonstration de principe. Ça montre comment un contrôle très fin de la chimie, à l'échelle de quelques atomes, peut résoudre des problèmes de séparation à très grande échelle.
C'est vrai, mais c'est passionnant. Mais ça nous amène à une dernière pensée, une question pour l'avenir. Tout ce travail est fait sur des poudres, des cristaux parfaits dans un labo. On ne purifie pas du gaz avec une cuillère à café de poudre. Quelle est la prochaine montagne à gravir ?
Vous mettez le doigt sur le défi majeur de tout le domaine. L'étape suivante, c'est de passer de ces cristaux parfaits à des dispositifs utilisables à l'échelle industrielle. Des membranes de filtration, par exemple.
Comment on passe de la brique microscopique au mur fonctionnel ?
C'est toute la question. Comment assembler ces milliards de cristaux en une membrane durable, efficace, qui ne se dégrade pas et qui peut traiter des flux de gaz industriels complexes et pas juste un mélange de deux gaz purs. Le passage du labo à l'usine, c'est le principal verrou à faire sauter pour que cette technologie puisse un jour vraiment changer la donne.